Un homme, un vrai, c'est-à-dire en chair et en os, tout simplement. Pour moi, c'est ça, un homme, pas un archétype de la virilité tel qu'on peut se l'imaginer. Un de ces rares hommes, en l'occurrence, dont on peut se remémorer la silhouette, le costume et le col, le style et les lunettes, le catogan aussi avec ses cheveux tirés en arrière, ses cheveux blancs. Un homme que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois et qui m'a marqué, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il avait l'élégance de l'intelligence. C'était quelqu'un qui faisait l'effort de toujours donner le meilleur de son esprit, de sa personne, de son corps aussi. C'est une forme de respect et c'est quand même quelque chose ça aujourd'hui. Ensuite, parce qu'il faisait partie des très rares à être vraiment libre, essentiellement, irrémédiablement, dans sa parole, lapidaire, souvent cinglante, un tantinet totalitaire, parce qu'il était très drôle, ce qui est à la fois une marque d'esprit, de liberté et de créativité, parce qu'il croyait surtout en la beauté, et pas seulement celle des corps, la beauté de l'art, des livres, du dessin, de la création. Cet homme, dont la plus belle création ne fut pas des vêtements, on l'a dit, mais lui-même en somme. On pourrait dire que c'était une marque, Karl Lagerfeld, sauf qu'à ma connaissance, une marque n'a jamais eu autant de fêlures, ou alors elle n'aurait pas marché. Pour moi, c'était une œuvre d'art. Et croyez-moi, un homme, un vrai, qui est à la fois artiste et œuvre d'art, c'est très très rare.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, depuis plus de 3 décennies, interroge le masculin à travers ses photos de mode, mais aussi à travers ses films. C'est pour un documentaire consacré à une légende du cinéma hollywoodien, icône de la virilité, made in USA, personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît, Robert Mitchum, que je le reçois aujourd'hui. Ça s'appelle Nice Girls Don't Stay for Breakfast, les filles bien ne restent pas pour le petit déjeuner. Ça sort la semaine prochaine, mais j'ai plein de questions à lui poser. Bonjour Bruce Weber.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être un homme pour vous?
Well, that's a really complicated question.
Oh, ben ça, c'est une question compliquée. Quand j'ai été étudiant aux Beaux-Arts à l'université de Denison dans l'Ohio, j'avais un prof qui disait, ce qui est intéressant quand on est un homme, bon, vous êtes pour la plupart des hommes dans la classe là, mais c'est qu'en vous, il y a un peu de femme. Cette idée m'a beaucoup plu. Du reste, j'essaye de vivre en pensant à ça.
Pourquoi, à votre avis, est-ce que la question que je viens de poser est devenue si problématique, si sujette à polémique? Comme en témoigne, par exemple, la résistance de certains mouvements masculinistes qui disent que les hommes n'en sont plus?
Ah oui, une question sujette à polémique, comme vous dites. Qui est homme? Qui est-ce qui est femme? Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire des photos de beaucoup de transgenres. C'était dans le cadre d'un projet que je faisais avec Barnet. C'était une immense campagne et les gens étaient absolument incroyables. On les a fait venir, ils étaient là avec leur soutien d'ailleurs, et j'ai eu une expérience absolument mémorable. C'était un couple, un jeune homme, une jeune femme qui sortaient ensemble. Et ils ont tous les deux décidé de changer de genre. Et ils ont continué à sortir ensemble, mais ils avaient changé de genre. Voyez? La fille devenue homme mesurait plus d'1m85, elle était à la fac, elle était très intelligente, très belle. Et elle nous a raconté que à la fac, tout le monde se moquait d'elle en permanence. Un beau jour, elle n'en pouvait plus, elle a parlé devant toute la classe, et elle a dit, écoutez, moi, mon expérience, je vais vous la raconter. Et quand elle a fini son propos, tous les étudiants, qu'ils soient joueurs de foot ou pom-pom girl, étaient en pleurs. Ils l'ont prise dans leurs bras et ils l'ont acceptée pour ce qu'elle était.
C'est intéressant de vous entendre dire ça, Bruce Weber, vous qui êtes l'un des grands photographes de la virilité. Par quelles images, par quels modèles, par quels stéréotypes peut-être s'est-elle construite, votre conception de la virilité?
Well, I always kind of liked the guy or the girl, truthfully.
Personnellement, moi, j'aime celui ou celle qui est au fond de la classe et qui n'a l'air de rien, comme ça. Et en tant que photographe, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça, et en tant que cinéaste aussi. Je me souviens d'une fille que personne n'aimait, et la styliste Julie Bridd, qui était travaillée pour les magazines Vogue et Glamour, a commencé à parler de cette fille. Et elle a fait venir toute l'équipe chargée du coiffage et du maquillage. On s'est intéressé à cette fille tout à coup, et on s'est beaucoup occupé d'elle. On lui a fait porter une robe de campagne très simple, mais très belle. Et cette fille avait une allure incroyable. Et ça, je l'ai vécu avec pas mal de femmes, mais aussi avec pas mal d'hommes. L'homme, vous savez, très timide, qui parle jamais, ça va, il a un physique comme ça, mais rien d'exceptionnel. Et moi, je me suis dit, ce gars-là, il va être exceptionnel et je vais faire de mon mieux.
C'est un Robert Mitchum, un homme que beaucoup ont considéré comme l'incarnation de la virilité que vous vous êtes intéressé, Bruce. Sur quoi est-ce qu'elle repose, cette image-là?
Bien, ça vient de cette idée, de cette doxa, selon laquelle l'homme doit être à la hauteur des attentes qu'on projette sur lui. Robert Mitchum, c'est un très bon exemple de cela. Parce qu'une des raisons pour laquelle il était si charmant et si intéressant, c'est qu'il était astucieux, intelligent, très cultivé. Il écrivait de la poésie, il chantait, il faisait de la musique. Et d'une certaine façon, il y avait une douceur en lui. Et c'est ça qui le rendait si attirant.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de la première fois que vous l'avez vu sur un écran de cinéma? C'était dans quel film, dans quel cinéma?
J'allais au cinéma avec mon père. Ma mère emmenait ma sœur au cinéma. Bref, on allait au cinéma dans le patelin en Pennsylvanie où on habitait et j'ai vu Celui par qui le scandale arrive avec mon père. Et je me dis, oh là, mais et on dirait que c'est mon père qui me parle. C'est ça que je me suis dit. Bon, alors évidemment, moi, j'ai pas le même physique que l'interlocuteur de Robert Mitchum dans le film, hein, George Hamilton, mais moi, j'étais un petit gamin un peu boutonneux à l'époque. Hein. Et je me suis dit, moi, je ne serait jamais l'image qu'on attend de moi, de Robert Mitchum. Mais en réalité, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, eh bien, je vais être moi-même.
All right, there have been others, but you can put an end to that. You just unlock your door. Tonight, if you want to. Right now, if you want to.
Then I'll tell you why you still find me attractive after all these years. Because you can't have me.
You've had him for 17 years, now I want him. I'm going to take him out in the company of men. Whether you like it or not, Hannah, that boy's going to come of age.
You can't have him.
You can't stop me.
Quel rôle, selon vous, Bruce Weber, a joué le cinéma dans la vie de l'enfant que vous étiez?
Un rôle incroyable. Moi, j'ai grandi dans une ville où le foot américain était roi. Généralement, je passais mon temps dans ma chambre et je dois dire que j'étais dingue d'Elizabeth Taylor, au point où mes parents envisageaient de m'envoyer voir un psy. Hein. Et ma mère et ma sœur n'y comprenaient rien. Bref, à l'âge de 13 ans, c'était pour ma bar mitzvah. Et j'ai décidé d'appeler Elizabeth Taylor. Elle était avec Eddie Fisher à l'hôtel Desert Inn à Las Vegas. Mais en fait, j'ai parlé à son agent. C'est dingue, hein, à l'âge de 13 ans, je me remémore tout ça avec vous. Bref. Et c'était important pour moi, parce que je voulais être en communication avec elle. J'avais un fantasme, hein, c'est clair. Et son agent me dit, « Ah ben, Elizabeth est sur scène avec Yul Brynner, Sammy Davis Jr. et tout ça. Mais quel est l'objet de ton appel ?» Il était très gentil, hein, son agent. Il savait qui il avait affaire, apparemment. Donc, moi, j'ai dit, c'est ma bar mitzvah et je veux l'inviter à ma bar mitzvah. Il m'a dit, bah, je vais lui demander, je vais lui dire, je suis sûr que ça lui plairait d'être invité. Quelques années plus tard, je l'ai rencontré, je l'ai prise en photo et on est devenus amis très proches. Mais j'ai jamais cité ça. Non, je voulais pas lui donner l'impression que je la traquais, elle aurait trouvé ça malsain.
Diriez-vous que Robert Mitchum a été un fantasme pour vous de la même façon que Liz Taylor a pu en être un?
Je pense qu'il était un fantasme pour pas mal de mec qui voulait lui ressembler. Et surtout, avoir son attitude, son comportement, parce qu'en réalité, on est tous absorbés par le quotidien. Mais Robert Mitchum, lui, c'était un type très décontracté. Hein.
En tout cas, il a joué un rôle déterminant, Bruce Weber, dans votre façon de regarder les hommes que vous photographiez. Ça, vous l'avez souvent dit. En quoi?
Comme je vous l'ai dit, quand j'étais gamin, j'étais un peu troublé. Hein. Et en fait, j'étais fan de Clint Eastwood. C'était l'époque de la série Rawhide. Et j'ai commencé à prendre des photos et je voulais que tout le monde ressemble à Clint Eastwood. Alors, tout le monde n'aimait pas Clint Eastwood, notamment les filles. Mais pour la première fois que j'ai rencontré Robert Mitchum, je voulais que tout le monde ressemble à Robert Mitchum quand je les prenais en photo.
Qu'est-ce que vous cherchez à capter, à capturer chez les hommes que vous photographiez?
J'essaye de faire une photo qu'ils verront plus tard, et photo qu'ils montreront à leurs enfants, aux petits-enfants, en disant « ça, c'était moi ». Même si c'est un nu ou un portrait qui les rend un petit peu trop beaux, si vous voulez, ou alors une photo qui montre leur vulnérabilité. En réalité, c'est ça que je veux montrer. Je veux que ce soit une photo qu'ils puissent montrer à leur famille ou aux gens qu'ils aiment.
Ce qui est assez passionnant lorsqu'on voit votre film, Bruce Weber, c'est que l'homme que vous filmez, il n'a rien à voir avec ceux dont vous avez par le passé sublimé la plastique. C'est un homme de plus de 70 ans, au corps fatigué, au visage ridé, avec des grosses lunettes. Vous le trouvez beau encore ?
Yeah, definitely.
Ah bah oui, et comment ?
You know, sometimes I'd be with him.
Vous savez, parfois j'étais en sa compagnie, on bavardait, et je pouvais pas le regarder. Je pouvais pas le regarder parce qu'en lui, je voyais tant d'hommes dont j'avais tiré le portrait. Et je me disais que cette masculinité naturelle qu'il portait en lui, ce serait quelque chose que je n'aurais jamais, moi, mais que j'appréciais chez ceux que je photographiais. Par exemple, à mes débuts, on m'a envoyé faire un portrait de Jeff Bridges. Quand il était jeune, il tournait dans un film de Bob Rafelson qui s'appelait Stay Hungry. C'est la première fois que j'ai rencontré Jeff. On était en train de bavarder. Il avait cette espèce de décontraction. Il n'avait pas un corps sculptural, hein. C'était un type assez naturel. Il portait une chemise à carreaux et un jean très naturel pour lui. Et je me souviens que, donc, on est allé voir dans sa chambre d'hôtel différentes choses, différentes photos. Et puis, je suis tombé sur des petits mots que lui a envoyé une fille du Montana. Elle s'appelait Suzanne. Ils ont fini par se marier et avoir des enfants. Bref, à propos de Jeff, Jeff avait cette masculinité naturelle lui aussi, mais cette décontraction en même temps. Après le shoot, il m'a pris dans ses bras sans se soucier ce que les autres pouvaient penser.
C'est ça qui fait pour vous la beauté d'un homme, Bruce Weber, son assurance, cette version-là de la masculinité?
Pas systématiquement, non. Il y a des exceptions. Parfois, on rencontre quelqu'un dans la rue. Ou alors, tiens, un jour, j'étais à un dîner en Amérique du Sud. Ça devait être en Uruguay, je crois. Bref, on était en train de bavarder à table. Et l'homme qui était là autour de la table était un homme très, très riche. Sa femme, je l'avais prise en photo. C'était une femme magnifique. Et tout à coup, je me tourne et il y avait un serveur qui était là. Un jeune gars, il devait avoir une petite vingtaine. Et il avait la tête, comment dire, d'un second rôle dans un film de Marlon Brando comme La Vengeance au deux visages. Je le regarde et je lui dis, vous parlez anglais? Il me dit oui. Mais moi je lui dis, il faut qu'on vous prenne en photo. On est là, on travaille pour l'édition italienne de Vogue. Est-ce que vous êtes libre demain? Il me regarde, terrorisé. Et je demande à la femme. Je lui dis, est-ce qu'on peut faire appel à lui pendant quelques heures pour prendre quelques photos? Et l'homme, le mari à ce moment-là, dit, et moi alors? Et la femme, elle dit, oh, laisse tomber, pas toi, chérie. Bref, elle se tourne vers moi, elle dit, oui, allez-y, bien sûr.
Celle qui est laide, pour ne pas dire vlaide comme le péché dans cette émission, vous la connaissez certainement, c'est la culture. Et son actualité qui, en plus d'être ingrate, est méchante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui?
Si vous regardez vraiment les photos des 10 dernières années, ça a suivi la mode, une certaine mode. C'est pas si immuable que ça. Parce qu'en général, la silhouette est perçue comme d'être uniquement habillée de noir et de blanc. Regarde, je suis en bleu marine et avec des taches rouges, vous voyez, donc c'est pas ça du tout. Mais ça, c'est un truc qui m'a dépassé. Ça, j'y peux rien. Hein. Je vais pas faire le clown chaque jour et m'habiller d'une façon absurde sous prétexte que il faut changer. Il faut changer son travail, mais la personne et comment on s'habille, à un moment donné, il faut trouver un certain équilibre parce que j'ai pas le temps de m'occuper et de mon travail et de ma personne à ce degré que d'ailleurs je ne désire pas à changer parce que ça donne une certaine, je sais pas dire autorité, mais c'est comme ça. Moi, je n'ai pas bougé. Ce que je dois bouger et faire bouger, c'est ce que je fais, mon travail, la mode et le reste. Moi, je m'en fous de la postérité. Hein. Je m'en fous. J'en profiterai pas. Donc moi, c'est aujourd'hui Paradise Now. Hein.
Karl Lagerfeld, 10 septembre 1933, 19 février 2019.
J'adore les vêtements, sont féminins, sont aboutis, sont des belles matières. Il y a quand même des tweeds, il y a du néoprène, des matières que j'adore.
Désormais Chanel, c'est elle. Virginie Viard a été nommée hier directrice artistique de la maison haute couture. Elle a pour mission de continuer à faire vivre l'héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld. Très discrète, entrée dans la maison comme stagiaire broderie en 1987. Virginie Viard était la plus proche collaboratrice du Kaiser depuis 30 ans. C'est elle qui donnait vie aux collections dessinées par le créateur. Force et honneur.
Je ne veux pas que vous m'appeliez cher ami, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre.
Et vaut mieux tard que jamais, après des décennies de refus, l'Académie française a enfin accepté la féminisation des noms de métiers. Désormais, nous avons donc officiellement le droit de dire et d'écrire préfète, doctoresse ou autrice. Dans le reste de la francophonie, notamment au Québec, puis en Belgique ou en Suisse, la féminisation des noms est actée depuis les années 70. Vive la modernité. Et mercredi, de silhouette, séance à la fête, car aujourd'hui dans les salles, on plonge la tête la première avec Le Chant du Loup, le drame sous-marin d'Antonin Baudry. On dit amen à Grâce à Dieu, le film polémique de François Ozon qui, après un lion d'argent à Berlin et un feuilleton judiciaire, a réussi à sortir sur grand écran. Et sinon, on se laisse entraîner par La Chute de l'Empire américain, la fable anticapitaliste du Québécois Denis Arcan. Le photographe et cinéaste Bruce Weber, invité de Boomerang ce matin pour son documentaire sur Robert Mitchum, Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Les filles bien ne restent pas pour le petit déjeuner. Mitchum, en quelques films, c'est Le Paradis des Mauvais Garçons avec Jane Russell, La Rivière Sans Retour avec Marilyn Monroe, La Nuit du Chasseur, évidemment, ou encore L'Aventurier du Rio Grande avec Julie London. Quand est-ce que vous avez rencontré Robert Mitchum pour la première fois, Bruce Weber?
Eh bien, à l'époque, je travaillais pour Vanity Fair et je faisais un sujet sur les gros durs. Et lui, c'était un des hommes dont je devais tirer le portrait.
Et alors, quelle est la première chose que vous lui ayez dite et qu'il vous ait répondu ?
Moi, j'ai dit bonjour, je lui ai dit comment je m'appelais. Et généralement, quand les gens se présentent à lui, il réagit comme si le nom ne lui disait rien. Mais en réalité, il n'a rien dit du tout. Et j'ai dit, je suis là pour prendre des photos. Il m'a regardé pendant longtemps, il m'a dévisagé, il m'a regardé des pieds à la tête, un peu méfiant, hein, je dois dire. Puis après, il a dit, allez, entrez. Et c'est la première chose qu'il m'a dit, en fait.
À partir de quel moment vous vous êtes dit que vous aimeriez le filmer ?
Après avoir terminé mon film Let's Get Lost sur Chet Baker, je me suis dit je voudrais faire un autre documentaire, mais sur un acteur cette fois. D'abord, j'ai pensé à pas mal d'acteurs anglais que j'aimais beaucoup. Je me suis dit Richard Harris, par exemple. Il joue dans un de mes films préférés, Le Prix d'un homme. Ou alors, il y avait James Stewart ou Gregory Peck. Mais après avoir rencontré Robert, je me suis dit que ça devait être sur lui. C'était sans doute à cause des points communs que je voyais en lui avec mon père.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous a laissé faire, en fin de compte. Comment vous l'avez convaincu ?
C'est Dennis Hopper qui m'a dit, « Mais Bruce, comment t'as réussi à le convaincre ?» Mais je lui ai dit, « Je sais pas. » En réalité, je faisais des photos de jolies filles à Santa Barbara à l'époque. Et j'envoyais les filles, lui envoyer des petits cadeaux. Des trucs imbéciles, hein, des CD, ou alors un gâteau, un livre, ou alors un coffret des films de Russ Meyer. Je crois qu'il n'aimait pas tellement les films de Russ Meyer. Moi, j'adore, hein, personnellement. Mais lui, je ne suis pas sûr.
En tout cas, vous l'avez notamment suivi pendant l'enregistrement d'un album au milieu des années 90 qui n'est jamais sorti et sur lequel il reprenait certains standards. Qu'est-ce que vous entendez-vous dans sa voix, Bruce ?
C'est comme s'il disait, j'aurais voulu lui dire ça. Si j'avais pu dire quelque chose comme ça à quelqu'un de ma famille. Mes amis, si j'avais pu vous dire ceci ou cela.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, when we're out together dancing, when we're out together dancing cheek to cheek.
That's good.
Okay?
Okay.
All right. Oh, very well.
Robert Mitchum reprenant Cheek to Cheek avec Ricky Lee Jones en studio dans ce film Nice Girls Don't Stay for Breakfast. Bruce Weber, et cette session d'enregistrement qui prend une place très importante dans votre film, elle souligne votre intérêt pour la musique, dont témoignait d'ailleurs votre documentaire sur Chet Baker que vous mentionniez il y a 31 ans. Avec quelle musique est-ce que vous avez grandi ?
Me and my sister
Ma sœur et moi, parce qu'on avait grandi dans un patelin à la campagne, on écoutait des BO de comédies musicales. Et on jouait les rôles. Parfois, je jouais la fille, elle, le garçon. Mais bref, c'était pas ça qui était important. Mais au bout d'un moment, c'est le jazz qui m'a happé. Et j'écoutais en boucle Ella Fitzgerald, Dave Brubeck et Chet Baker, bien sûr.
Mais quel point commun pourrait-il y avoir entre un Chet Baker et un Robert Mitchum, mis à part qu'ils ont tous deux assez rapidement accédé au statut d'icône?
Je sais pas bien. Peut-être qu'ils étaient tous en train de réussir un parcours particulier, un petit peu comme vos auditeurs d'ailleurs, s'ils s'intéressent à cette interview. Bref, et je crois qu'ils ont géré leur parcours de manière très différente. Robert, lui, il se cachait, en fait. C'était trop dur pour lui, il était tellement costaud. Et Chet, lui, il voulait dissimuler toute cette douleur qu'il avait en lui. Il ne se satisfaisait jamais de cette musique merveilleuse qu'il faisait, pourtant. Et même chose pour Robert Mitchum, il n'était pas satisfait de son travail. Je pense qu'il aurait été plus épanoui s'il avait écrit.
Une insatisfaction, Bruce Weber, une liberté aussi, peut-être, parce que c'est ce qui frappe dans votre portrait de Robert Mitchum, sa liberté de ton. Est-ce que vous pensez qu'un artiste aujourd'hui peut encore être libre de dire et de faire comme il l'entend ? Est-ce que l'artiste n'est pas voué à devenir un personnage lisse, en fin de compte ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Question que nous devrions nous poser tous les jours, d'ailleurs. Je vois cela chez beaucoup de jeunes photographes ou cinéastes. Toutes ces photographies incroyables de Edward Weston, toutes ces belles photos de femmes, les photos de Tina Modotti aussi. Ces photos-là, on ne pourrait pas les prendre aujourd'hui. Ou si on les prenait, on ne pourrait pas les publier. Et puis, il y a Imogen Cunningham, dont les photos ont été publiées pour la première fois quand elle avait une soixantaine d'années. Elle est partie avec son mari, Roy, au sommet du mont Rainier dans l'état de Washington pour faire des photos de nu de lui. Des photos magnifiques. Lui, il avait cette chevelure impressionnante. C'était des photos étonnantes. Des photos très très belles, très artistiques. Des photos que seule une femme aurait pu prendre. Et un scandale a éclaté. Aucun des photographes de cette communauté macho de photographes de la côte ouest, il y avait pas mal de gens que j'admirais, je sais pas, les Ansel Adams et gens comme ça, eh bien, ils ont tous été contre ces photos-là. Cependant, il y avait Minor White, qui lui avait fait des photos intimes, mais il a fallu attendre sa mort pour que l'on retrouve au fin fond d'un tiroir ces photos. Donc, Imogen Cunningham, qui s'est dit « Ah, enfin, mes photos vont être publiées, mais malheureusement, il y a ce scandale et personne ne va m'embaucher. » Donc, tout ça pour dire qu'il faut être soi-même. Et on revient à cette question du personnage dont vous parlez. Et c'était le cas de Robert Mitchum et de Chet.
Et vous ?
Ah ben, moi aussi, j'espère que je suis moi-même. J'espère que c'est contagieux.
On va continuer à en parler de rébellion, d'art, de liberté, juste après un titre que l'on entend dans votre film, Bruce, Sonny, une chanson de 1963, écrite par Bobby Hebb, reprise par Robert Mitchum en 1967. Vous êtes sur France Inter avec Bruce Weber. Vous écoutez Boomerang.
Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one, shining so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine that you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I'm feeling 10 feet tall. Sonny, one so true, I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see. Sonny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was born when we held hands. Sonny, one so true, I love you. Sonny, thank you for the smile upon your face. Sonny,
that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet complete desire. Sunny one, so true, I love you.
Ah bon, on est quelque part entre le Père Noël et le hipster. Hein. Mais alors le hipster coquin, pour ne pas dire lubrique, avec sa grande barbe blanche, sa figure ronde, ses yeux clairs, on l'imagine plus facilement aller de vernissage en vernissage, une coupe de champagne à la main, et plus, si affinité, qu'en train de fabriquer des jouets au pôle Nord. Bruce Weber, invité de Boomerang ce matin pour Nice Girls Don't Stay for Breakfast, un film dans lequel vos propres images de Robert Mitchum, tournées en noir et blanc, se mêlent à des images de films, des images d'archives. Le traitement de votre image, comment est-ce que vous l'avez conçu? Comment est-ce que vous vouliez qu'elles soient, ces images?
Il y a certaines photos qui décident elles-mêmes comment elles vont s'intégrer dans un film. Moi-même, j'aime bien intégrer beaucoup de photos dans le film, parce que je suis photographe, justement. Lorsque j'ai commencé à faire des films, les gens me disaient « Mais tu peux pas faire de film, toi, t'es photographe. » Et moi, je répondais bah, « Je peux faire un film en tant que photographe, quand même. » Et parfois, l'immobilité de l'image comporte suffisamment de mouvement, à vrai dire.
Quel objet est-ce que c'est pour vous, un appareil photo, Bruce Weber?
It's my guitar.
Ben, c'est comme une guitare pour moi. C'est comme un musicien qui est avec sa guitare tout le temps et qui emmène sa guitare au lit, même.
Quel a été votre premier appareil photo, vous en souvenez?
It was a little Pentax.
Ah oui, un petit Pentax Instamatique, c'est ma mère qui me l'a offert.
My parents really wanted me to be a lawyer.
Mes parents voulaient que je sois avocat, que j'aille à Yale. Mais en fait, j'étais pas très bon élève, moi. Moi, je pensais qu'à Elizabeth Taylor à l'époque, vous voyez. Et je faisais des photos, je pensais à faire des films, j'avais la tête dans les nuages. Mais quand j'ai intégré l'université Denison, là j'étais ravi. C'était une université protestante, baptiste. Moi j'étais étudiant en beaux-arts et en cinéma. Puis ensuite je suis allé à NYU. Et là ma vie a changé.
Mais la photographie, elle était présente, elle se pratiquait dans votre famille?
Oui, mon père était excellent photographe. Il n'était pas professionnel, mais il aurait pu l'être. Et puis il savait faire des films aussi. Mon père et ma mère étaient vraiment très beaux. Mon père ressemblait à Paul Newman jeune et ma mère, elle était d'une très grande beauté. À tel point que j'ai fait un sujet sur Simone Signoret et Yves Montand en les comparant à mon père et à ma mère. Et évidemment, je parlais du fait que mes parents adoraient la France.
Votre père, dont vous avez exposé certaines des photos en vis-à-vis des vôtres, Bruce Weber, qu'est-ce qui fait un bon photographe pour vous?
Quelqu'un qui s'occupe pas tellement du matériel, mais qui s'occupe de sentiments.
Et une bonne photo.
Moi, je collectionne les photos. J'ai pas beaucoup de mes propres photos accrochées au mur, hein, sauf dans ma chambre. Parce que c'est là que je mets toutes les photos de ma famille et de mes chiens. Une bonne photo pour moi, c'est une photo qui raconte une histoire. Les photos personnelles que j'ai, ce sont des photos de gens que j'aime, que j'ai aimés.
Est-ce que quand vous passez en revue les photos que vous avez prises sur ces 40 dernières années, vous n'avez pas l'impression de feuilleter un album de famille? Après tout.
I hope so.
Ah bah si, j'espère. D'ailleurs, c'était un objectif. Un jour, j'ai publié un livre qui s'appelait Bear Pond, le lac aux ours. S'il s'agit d'un petit lac dans les montagnes Appalaches, les Adirondacks, on y va qu'en bateau. Et j'ai pris des photos de copains que je connaissais très très bien. Ils sont là en train de se baigner à poil, il y a des canoës. Je suis là avec mes chiens. Et en fait, les gens étaient choqués par ces photos. Mais en fait, moi, je suis très fier de ce livre parce qu'il rapportait beaucoup d'argent au centre anti-sida à New York. Ben, je sais pas, à vrai dire. Je crois que tous ces gars-là, ils ont une photo de leur jeunesse. Moi, j'ai pas cette chance, moi. Les gens qui m'ont photographié étaient des amis. Par exemple, Roddy McDowall, il m'a beaucoup pris en photo. J'aimais beaucoup Roddy. Et je crois que ces photos de moi étaient très bonnes parce que c'était pas moi. Roddy m'aimait beaucoup. On était très amis et j'avais l'air un peu différent.
Est-ce qu'on ne photographie pas aussi pour être moins seul, Bruce?
Yeah, that's a really great question to ask a photographer.
Ça, c'est une question géniale à poser à un photographe. J'ai plein d'amis photographes qui sont vraiment excellents. Ils ont un point de vue sur le monde génial, mais ils sont très seuls.
Et je vous pose la question parce que j'ai le sentiment que ce qui vous fascine, tout compte fait, chez Robert Mitchum, c'est aussi sa solitude. Une solitude qui interroge et dans laquelle se loge tout le mystère et tous les secrets de l'homme.
Well, he was a loner.
Robert Mitchum, c'était un solitaire. Et moi, je trouve ça très attirant. Autour de moi, il y a tellement de gens et tellement d'animaux. Je ne sais pas si moi, je pourrais être solitaire comme ça. Je suis sans arrêt en train de parler avec des gens. Ce qui est génial avec un appareil photo, particulièrement quand on est timide, c'est qu'on peut rencontrer quelqu'un et dire « Bonjour, je peux vous prendre en photo ?»
Pour autant, vous en avez des secrets, Bruce Weber.
Ah ben,
j'espère bien.
Inavouable.
Oh non.
Merci infiniment, en tout cas, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Nice Girls Don't Stay for Breakfast sort mercredi prochain, qu'on y croise le grand Robert Mitchum, mais aussi Marianne Faithfull, Ricky Lee Jones, Johnny Depp, Benicio Del Toro et Clint Eastwood. Merci également à votre interprète ce matin, Xavier Combes. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.